médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada.
France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale deuxième saison, la suite de notre grand voyage à travers le monde avec des reportages et des rencontres. Voici le sommaire. Dans un instant, nous irons au Liban, à Beyrouth, avec Vénus Corrigata, poète et écrivain couronné par de très nombreux prix, qui avait accepté en 2009 de retourner sur les lieux de son enfance. Nous serons aussi à Saint-Malo avec Yann Kefelec sur les remparts de la ville pour un entretien inédit en déambulation sur le thème de la mer. Il sera question de la notion d'espoir avec Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrigne, l'écrivain franco-afghan Atik Raimi et Jean-Christophe Ruffin. Et puis le club francophone de la semaine accueille le groupe Trio. Bonjour Christophe Mali.
Bonjour.
Bonjour Daniel Bravo.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Super.
Vous êtes en tenue estivale.
Exactement. Il fait chaud, on est heureux.
Bronzé et tout.
Voilà.
Vous avez choisi d'inviter une grande et jeune personnalité du théâtre.
Tout à fait. Il s'appelle Alexis Michalik. Et voilà, quelqu'un qu'on a rencontré il y a maintenant quelques années. Ouais. Et on voulait en faire profiter le monde entier.
C'est parfait. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette librairie estivale. Vous avez remporté de nombreux Molières, mais vous proposez surtout un théâtre accessible, dynamique, fédérateur et intelligent.
Merci beaucoup.
Bon, on va en parler ensemble.
Avec plaisir.
Et il y a des croisements, des points communs entre vous, évidemment. Trio et Alexis Michalik sont dans la librairie francophone estivale cette semaine.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Et on commence avec un nouvel épisode de notre série Un auteur, une ville. Direction Beyrouth avec Vénus Corrigata, grande poétesse franco-libanaise, grand prix de poésie de l'Académie française et prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. En 2009, on l'avait accompagnée sur les lieux de son enfance et depuis la guerre, elle n'y était pas retournée. Bonjour Vénus Corrigata.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, je suis très heureuse de retrouver la ville dans laquelle j'ai grandi, je m'étais mariée, mais je la retrouve très changée. Nous avons derrière nous la mer qui est visible entre une église, l'église Saint-Maron, une autre église aussi. C'est le centre, le cœur palpitant de Beyrouth. Chaque fois que je parle d'un événement de ma vie, je le situe dans un quartier. Et là, quand je descendais ici, il n'y avait rien de ce que vous voyez là. Il n'y avait pas ces immeubles, il n'y avait pas ces hôtels. Il y avait la place des martyrs, le cœur palpitant de la ville, avec les cinémas archaïques, mais c'est des cinémas. La rue Moutanabi, où il y avait les maisons de passe. On regardait comme ça ces femmes plantureuses, blanches. Elles devaient être très blanches et très blondes, qui étaient penchées sur les balcons avec leurs seins qui débordaient des balcons. Et on était des filles de 10 ans, 12 ans, 14 ans. On fantasmait sur cette blancheur. Tout ça a été rasé, je ne retrouve plus rien. Ce n'est pas ma ville.
Alors nous voici arrivés sur les hauteurs de Beyrouth, Vénus Corrigata.
Sur les hauteurs de Beyrouth, sur le ring Fouad Chehab. Ce ring, on l'appelait le ring de la mort. Il divisait la ville en deux. La ville était ouest et est. C'était vraiment la place la plus meurtrière. On traverse le ring, on est assuré d'être mort.
Et on entend les cloches de l'église là, en ce moment même.
C'est l'église Saint-Maron. Ce qui est beau dans cette ville, c'est qu'on peut entendre en même temps le muezzin et en même temps les cloches des églises. Il y a une telle harmonie entre les deux communautés. Il ne faudra pas que les étrangers viennent y semer la discorde.
On va aller dans un autre endroit, si
tout
vous le voulez
fait,
bien.
On va monter vers Achrafieh, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu. Mon enfant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais y retrouver. Je vous avoue que pendant des années, je suis venue à Beyrouth au Salon du Livre et à autre chose. Je n'osais jamais, je prenais le chemin pour aller voir qu'est-ce que c'est devenu ce quartier. Et puis je revenais en arrière. C'est un quartier pour moi pétri de douleur. Je n'osais jamais arriver jusqu'à la maison de mon enfant. Je rebousse ces chemins. Je vais le faire avec vous aujourd'hui. J'espère être plus courageuse que les fois précédentes.
On va vous accompagner, Vénus. On monte vers Achrafieh, petit à petit, Vénus Corrigata, vers la maison de votre enfance. Nous sommes dans la rue de Sodeco, dans le quartier Sodeco, c'est ça ?
Un quartier où il s'était beaucoup battu. C'était une place très meurtrière. Voilà, la rue Sassine. هذا مش ساسين هذا لا هذا عدي بصحة
ساحة
ساحة من الفوق ننزل على اليمين il y avait beaucoup de mendiers
là il y a des commerces des immeubles des bars aussi moderne d'ailleurs
oui une ville moderne a pris la place des prairies des vergers des jardins des grands jardins où il y avait quelques immeubles plantés ça et là. Il y avait beaucoup de terrains vagues. On pouvait jouer étant enfant. Voilà, c'est la rue Sassine, par là. Je vais pouvoir l'affronter. Voilà, nous allons pouvoir nous arrêter là où vous pouvez vous arrêter. Il y a un mahal, toi, Yves, prends-le. Bah, du coup, non. Oui, fique-toi, Yves. Il y a haram qui fique-toi. Il y a un mahal, toi, Yves. Mon Dieu, où est-ce que c'était ? Je cherche ma maison. C'est ça. Voilà. Je reconnais cette maison qui avait été construite par deux sœurs, deux vieilles filles. Ma maison était derrière. C'était, il y avait un bassin avec des poissons et une eau verdâtre. Et deux immeubles, l'un en face de l'autre, chacun comportant deux appartements. C'est derrière ce que vous voyez là. Je vais regarder à travers cette porte qui n'existait pas. Nous étions
un grillage
à
noir. Oui.
Tout ça a été construit à la place de ma maison.
C'est un immeuble.
Dans cette maison qui était à gauche, c'est là que j'ai grandi. Il y avait des orties autour de la maison. Il y avait un jardin d'orties. Et ma mère, tous les soirs, une fois fatiguée des travaux de ménage, s'asseyait sur le seuil et disait « Demain, je leur ferai un sort. Demain, je les arracherai. » Il n'a jamais pu les arracher, il n'a jamais eu le temps de les arracher. Et je vois qu'il y a la seule chose qui a survécu au bombardement, à la guerre, c'est ce delphinia, cet arbre. C'est le seul que je reconnais. Il n'y a plus d'orties. Les orties sont parties. Voilà. Ma mère peut dormir tranquille dans sa tombe, Abchar.
Voilà, on est là, on va vous laisser regarder cet endroit
j'ose
que vous
regarder
retrouvez.
Maintenant, grâce à vous, vous êtes avec moi, j'ose, pendant des années, je n'ai pas osé.
Une dernière question, c'est un peu une revanche finalement d'arriver à venir ici pour vous.
Oui, c'est une revanche. C'est vraiment piétiner le sol où j'ai eu mal, où j'ai eu peur, où j'ai été terrorisée, où quand je revenais de l'école qui est un peu derrière nous, à notre droite, quand je revenais deuxième de la classe, je savais que j'allais mécontenter mon père et qu'il allait être très coléreux. Je devais être toujours la première de la classe, sinon je me disais pourvu qu'une voiture m'écrase sur la route avant d'arriver à la maison. Un moment, je vous l'avoue maintenant, où j'attendais dans la nuit, j'étais au seuil de la maison, sur le seuil de la maison, et je me disais pourvu qu'il ne rentre pas, j'ai souhaité souvent sa mort. Que Dieu me pardonne.
Merci beaucoup Vénus Corrigata, merci beaucoup d'être venue sur les lieux de votre enfance, c'est beaucoup d'émotion pour nous également. Merci beaucoup Vénus. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, un autre reportage, on part à Saint-Malo avec Yann Kefelec et nous serons avec le groupe Trio. Vous avez joué à Beyrouth, Christophe et
Évidemment,
Daniel
jamais.
Non, jamais. Le club francophone dans quelques minutes avance. La voici un son de l'été franco-brésilien avec le chanteur Nicolas Son. Bel été à tous sur votre radio francophone à travers le monde.
Amanhã já era, é hoje, hoje que te espero. Amanhã já era.
que se arriscar. Você quer voar, mas não tirou o brevê. E agora? Será que você quer pousar? E agora? Será que você quer casar? E agora? Será que não vai dar?
Nicolas Sonne, Amania Jaera sur France Inter, la RTBF, Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérad.
Voilà, on s'approche du bord des remparts. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Emmanuel Guérad.
Face à nous, il y a le Fort National. Tous les îlots comme cela et la baie de Saint-Malo qui est face à nous, la mer, la mer, la mer.
C'est tout à fait ça, la mer, la mer, la mer, la mer, toujours recommencée, comme disait notre compatriote méditerranéen Paul Valéry. La mer dans sa monotonie, parce qu'on croit toujours que la mer c'est quelque chose de très original, comme ça où il se passe énormément de choses. Généralement il ne se passe pas grand chose, mais ce pas grand chose est tout simplement magique. Et c'est le cas aujourd'hui, on a la monotonie de la mer et du ciel bleu sous les yeux et quelques navires à voile blanche en train d'évoluer.
Vous avez publié fin mai début juin le dictionnaire amoureux de la mer aux éditions Plon. Alors on va sillonner comme cela les remparts de Saint-Malo pour parler de la mer. Il y a quelque chose de très particulier chez vous, c'est ce rapport à la mer permanent depuis l'enfance. Et vous racontez une anecdote, vous dites que vous avez pris un bateau un jour, le bateau de votre oncle, quand vous étiez beaucoup plus jeune. Pourquoi vous me regardez comme ça?
Parce que je suis époustouflé par votre mémoire. Je ne sais pas si c'est l'air marin comme ça qui donne une telle vivacité à vos neurones, mais je suis impressionné.
Et donc, vous vous êtes perdu un peu en mer. Il a fallu vous récupérer avec un bateau de sauvetage.
Ah, j'étais un peu malheureux parce que c'était un bateau qui croupissait dans une rivière bretonne. Ça avait un nom qui était planteur de thé au Vietnam. Et un jour, jeune adolescent, je me suis emparé de ce bateau. J'ai hissé des voiles qui n'étaient plus en très bon état. Je me suis dit, voilà, vogue la galère, ce bateau va m'emmener là où il doit m'emmener. Malheureusement, il m'a emmené sur les rochers, je me suis échoué. Et c'est en effet, de manière assez piteuse, un navire de sauvetage qui est venu me récupérer.
Alors on est comme ça derrière l'un des remparts. On a une toute petite fenêtre qu'on appelle sans doute une meurtrière, non?
Je pense qu'on appelle cette petite tourelle une échauguette.
Une échauguette.
J'ai envie de dire ça comme ça, et le mot meurtrière va très bien pour désigner cette ouverture à travers laquelle on aperçoit l'immensité du bleu, des voiliers, un peu à l'ancienne pour certains d'entre eux, à voilure aurique en train d'évoluer, et un canot de sauvetage qui rejoint tranquillement l'entrée du port. Bon, il n'est pas à pleine vitesse, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de danger.
Ça vous rappelle des souvenirs, ça?
C'était pas un aussi beau canot de sauvetage, celui qui était venu me récupérer. Hein, mais...
Alors on peut rentrer parce que le son est très particulier ici, ça résonne, c'est très bas de plafond. On a la place juste pour deux personnes, en forme de dôme au-dessus de nous, et puis deux meurtrières, avec le Fort National qui est juste en face là, et puis un morceau du Grand B ou du Petit B juste.
Du Grand B, morceau du Grand B, ne pas oublier que Chateaubriand a tenu à se faire inhumer en face de Saint-Malo. Il voulait absolument que ses restes mortels, comme il disait, soient en pleine mer et devant Saint-Malo. Il est resté mal loin jusqu'à la fin, lui qui avait fait le tour du monde.
Vous entendez le vent et la mer juste en bas. C'est très apaisant, c'est très régénérant hein, comme paysage, comme atmosphère. Même en période estivale, on a comme ça cet air qui nous régénère.
Mais c'est la particularité de l'air atlantique, c'est qu'on a l'impression d'être dans une vraie vérité humaine, dans ce contact avec la nature, qui est à la fois très simple, très fort, parce qu'en effet ce vent est frais en même temps, et il sent extrêmement bon, enfin on est vraiment soi-même lorsqu'on est au bord de la mer, c'est ce que j'éprouve en tout cas.
Il y a des drapeaux du Québec juste derrière nous. En face, on va rejoindre le Canada et le Québec, Yann Kefelec, dans cette librairie francophone, ici sur les remparts de Saint-Malo, avec Surcouf, qui a une histoire particulière et très importante ici.
Robert Surcouf, ici, c'est le héros malouin par excellence. C'est le marin qui n'a jamais perdu face aux Anglais, qui non seulement n'a jamais perdu, mais a mis en péril la bourse de Londres avec ses prises de navires anglais les plus beaux, les plus chargés de richesses et voilà, les plus prestigieux. Il a vraiment flanqué la honte aux Anglais, ce qui est toujours extrêmement charmant pour des Bretons et encore plus charmant pour des Malouins. Alors là, on franchit une petite passerelle en bois. On est en train de passer de l'île de Saint-Malo dans l'île de la Maison du Québec, une île dans une île. C'est tout de même assez merveilleux. Et nous voici, nous avons Robert Surcouf, qui désigne l'ennemi héréditaire, qui désigne l'Angleterre, hein, qui est presque prêt à sortir son sabre de marine de son fourreau.
Allez, allons voir un autre personnage, c'est Jacques Cartier. Alors évidemment, on connaît bien Jacques Cartier au Québec, surtout à Montréal avec le fameux pont Jacques Cartier. Mais il y a une histoire, Jacques Cartier, c'est aussi un personnage emblématique de Saint-Malo.
Alors déjà, Jacques Cartier, c'est un natif intramuros de Saint-Malo, et c'est très important parce qu'il y a des Malouins qui sont extramuros et d'autres qui sont intramuros, et l'intramuros, c'est encore plus vrai que l'autre.
Donc, qu'est-ce que c'est l'intramuros ?
L'intramuros, c'est celui qui est à l'intérieur des remparts. Ouais, il est véritablement sur ce qu'on appelle le rocher. Jacques Cartier, il est né en 1491, un an avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et très tôt, il n'a pas été véritablement d'accord avec cette découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il était intimement persuadé que ses ancêtres malouins et que les Bretons avaient déjà été reconnaître, comme les Vikings, les côtes d'outre-Atlantique. Donc c'est lui qui a proposé au roi en 1534 d'aller voir de l'autre côté s'il ne restait pas des traces justement de ce passé breton et malouin en Amérique. Il y est allé et bel et bien il en a trouvé. Ce qui veut dire que Christophe Colomb n'était pas le premier à aborder les autres rives de l'Atlantique.
Et face à nous, donc, cette fameuse statue.
On retrouve notre ami Jacques Cartier, qui en 1534 a pris la mer sur la Grande Hermine pour partir à la découverte du Canada. Il est arrivé, il est allé reconnaître le Groenland, les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Le jour de la Saint-Laurent, il est arrivé à l'embouchure du Saint-Laurent, d'où le nom du fleuve Saint-Laurent,
et voilà.
Parce qu'il l'a trouvé le jour de la Saint-Laurent.
Voilà, on va terminer ici, Yann Kefelec, avec les canons sur lesquels d'ailleurs certains touristes se placent. ça fait un peu pirate. Voilà, pour ce son du monde, signé Yann Kefelec, ici à Saint-Malo. On est carrément au milieu de la mer, il y a la mer partout autour de nous. Merci beaucoup Yann Kefelec.
Merci Emmanuel Kirad et à la prochaine. À Nantes la prochaine fois.
Ah oui, à Nantes, allez, on ira où? À Montréal, pourquoi pas.
Tiens. À Montréal, oui.
Bah oui, avec, sur le pont Jacques Cartier.
Bien sûr.
Formidable.
Il est venu avec les pièces détachées de son pont et puis il l'a construit comme une espèce de grand Lego du Moyen-Âge. Formidable.
Merci Yann, merci beaucoup, à bientôt.
Et à suivre notre club francophone avec le groupe Trio Rédacteur en Chef qui invite le comédien Alexis Michalik. Et voici un extrait du nouvel album de Barbara Carlotti. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la barre, tenir aux choses. À marcher seul sur le volcan, le feu.
J'ai toujours aimé.
Barbara Carlotti, voir les étoiles tomber sur votre radio francophone.
Les médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada. France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et le groupe Trio est dans la librairie avec Daniel Bravo et Christophe Mali qui sont là et qui ont invité Alexis Michalik. Vous avez de nombreux points communs, notamment dans votre approche artistique.
C'est-à-dire ?
Oui, développer.
Parle-nous-en. C'est vrai que vous êtes rédacteur en chef, vous pouvez poser des questions si vous voulez.
Exactement.
Dans la démarche, dans la façon de communiquer avec le public, dans la façon d'élaborer vos disques et vos pièces de théâtre, vous avez une démarche assez semblable, je trouve.
Oh bah peut-être qu'on est des artisans. On va dire ça.
Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux.
Peut-être, c'est pas faux.
Puis on fait quelque chose de populaire et exigeant.
Mmh, on
peut
dire ça.
Je pense. Mais à part ça, oui, non, on a surtout le point commun d'être des potes.
Pourquoi Alexis Michalik alors ?
Pourquoi Alexis Michalik ? Parce qu'on se voit pas, on se voit rarement en ce moment. Donc je me suis dit c'était un peu l'occasion de se voir.
Ça fait toujours plaisir.
Voilà, moi j'admire beaucoup le travail d'Alexis. J'ai eu la chance de travailler. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur un projet il y a un petit moment maintenant. Et voilà, et c'est vrai que aujourd'hui, dans ce qui se fait dans le théâtre, etc., je trouve que Alexis amène vraiment une espèce d'air nouveau, en fait, une espèce de nouveauté, etc. Il devient totalement incontournable parce que maintenant, tous les théâtres à Paris
diffusent des pièces. Je crois qu'il n'y a pas plus un seul théâtre qui
diffuse. Non, c'est vrai que toutes les pièces, moi, j'en ai pas loupé une, et à chaque fois que je sors de ces pièces, j'appelle toujours mes amis en leur disant, il faut absolument, d'ailleurs, Daniel peut en témoigner, à chaque fois, je leur dis, les gars, allez-y.
Il faut absolument
que vous alliez voir les pièces d'Alexis Michalik pour ceux qui ne les connaissent pas, parce que voilà, même pour les personnes qui sont pas habituées au théâtre, c'est quand même assez, comment dire, c'est nouveau, c'est assez accessible, c'est assez cinématographique, ça raconte toujours des grandes, grandes histoires. Mmh. Moi, j'adore qu'on me raconte des grandes histoires, et Alexis sait très bien les raconter.
Et puis, c'est pas pour la radio, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il vient, il prend ses places lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il me dit même pas, je viens ce soir, ou est-ce que tu peux me mettre deux places. Non, il vient, puis je le vois à la sortie, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ça fait 4 mois que j'ai pris mes places.
C'est bien, ça.
Il va voir des spectacles. Ouais. Mais il y a des gens qui sont centrés sur eux, et puis en fait, Christophe, pas du tout.
Ils sont plus ouverts.
Plein de trucs, quoi.
Bon, Trio, c'est l'un des groupes francophones les plus populaires avec Zebda, Indochine, les Cowboys Fringants ou encore IAM. Vous avez des textes très politiques et vous partagez finalement une pensée en vous amusant.
On peut dire ça. On peut dire ça.
Daniel Bravo.
Écoute, en s'amusant.
Non ?
Oui, enfin, je pense que le côté festif est toujours très très présent. Quand on va sur scène, c'est pas pour faire un pamphlet politique, mais pour faire passer aussi un bon moment aux gens. Donc le côté optimiste, parfois utopique, est très festif et est toujours présent.
Oui,
on a toujours dit qu'on pouvait avoir des propos durs, mais sur une musique légère, et que c'était une meilleure façon de faire passer les messages.
Des propos sur la cause Touareg, sur la déforestation, l'immigration, l'écologie et ses dérives marketing, l'homophobie, tout ça sur des rythmes entraînants. Vous, Alexis Michalik, c'est aussi votre mode de création au théâtre. Vous dites devoir vous amuser d'abord, monter des pièces avec une bande, travailler en bande.
Moi, m'amuser, je sais pas, mais en tout cas, j'aime pas l'ennui. J'aime bien qu'il se passe quelque chose sur scène. Et après, c'est sûr que j'aime bien. C'est mieux quand il y a du monde autour. Ouais, c'est quand même plus sympa de partir en vacances avec des amis que tout seul, quoi.
Et c'est vrai que vous ne voulez pas monter de pièces avec de grandes vedettes.
Moi,
j'ai joué dans une dose de bière.
Exactement. Donc, je suis pas fermé.
Grande personnalité du théâtre, on disait, Christophe.
C'est pas quelque chose que je refuse à tout prix. C'est juste que vu que ça fonctionne sans, pourquoi je changerais ça? Pourquoi je prendrais des gens qui vont venir jouer 3 mois et ensuite partir en tournée et coûter très très cher plutôt que des acteurs qui vont être très heureux de défendre un spectacle 1 an, 2 ans?
Oui, vous avez joué Christophe Mali dans une adaptation de Carmen de Bizet.
Exactement. Enfin, on avait monté les deux premiers actes.
On avait monté l'acte 2
avec Julie Zenati.
Avec Julie Zenati pour un festival au Ciné 13 Théâtre, une salle de 100 places et on était 25 sur scène. C'était très rock'n'roll. On avait joué 5 ou 6 fois. C'était une super aventure et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, quoi.
Mais je crois que quand on regarde les pièces d'Alexis, on se rend compte qu'au-delà de la pièce, il y a une troupe derrière. Il y a une véritable troupe, un esprit de troupe. Et ça se ressent énormément. Je dis pas que s'il y avait des stars, ça serait différent. Peut-être que les stars peuvent se fondre là-dedans, mais en tout cas, les acteurs, quand tu vas les voir après, parce que j'en connais quelques-uns de tes acteurs habituels, etc., ils sont tellement heureux de jouer dans ces pièces, ils sont tellement heureux, voilà, donc ça se ressent.
En tout cas, cette méthode éloignée des circuits ultra-commerciaux, tous les deux, vous êtes dans ce cas-là, éloignée de l'intellectuel à outrance aussi, ça marche. Le public vous adore, Trio, et vous, Alexis, à 36 ans, vous avez été reconnu en France
même
avec pas moins de 10 Molières. 35 ou 36 ?
Ouais, 35.
35, je vous ai vieilli, bon. Dont meilleur auteur francophone vivant, ouais. La récompense officielle française pour le milieu du théâtre.
Ouais, ouais, c'est chouette. Hein.
10 Molières.
Oui, bah oui, écoutez, je suis content, on va pas...
10 Molières ?
Waouh.
Ouais,
wow.
Ouais, putain, ouais, ouais.
Je pense qu'on a eu qu'une victoire de la musique.
Et pour un DVD en plus.
Pour un DVD en plus, alors merde.
Ouais, mais maintenant c'est fini, hein. Ils me donneront plus jamais rien, hein. Je pense que c'est terminé.
Ça y est, ouais, 10 Molières,
mais de toute façon, c'était vraiment, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Hein. Moi, là où je suis content, c'est d'avoir des salles pleines, c'est d'avoir des gens qui viennent, c'est d'avoir des jeunes, c'est d'avoir des classes, des gens plus âgés, des érudits, des gens qui sont jamais allés au théâtre, c'est d'avoir un public hétéroclite. C'est ça qui me plaît vraiment énormément et qui est la plus belle récompense. Le reste, les breloques, bon bah ça fait du bien à l'ego, mais ça, c'est pas ça qui, enfin, c'est pas ça l'important quand même. C'est pas pour ça qu'on fait du théâtre. On se dit pas en montant une pièce. Il y a deux choses qu'on se dit pas en montant un spectacle. On se dit pas ça va me rapporter de l'argent, et on se dit pas ça c'est sûr que ça va me rapporter un Molière. C'est pas les raisons pour lesquelles on fait du théâtre, hein. Pour le théâtre, au départ, faut vraiment un truc de passion, de j'ai vraiment envie de défendre cette histoire, quoi.
Vous dites que le théâtre, c'est le retour à l'enfance, Alexis. Vous dites qu'il ouvre des portes émotionnelles plus fortes encore que le cinéma.
En tout cas, il peut. C'est pas tout le temps le cas, mais oui, parce que qu'est-ce que c'est le théâtre si ce n'est des gens qui vous racontent une histoire, et nous raconter une histoire, ben c'est ce qu'on vit à l'enfance, et on vit pas ça plus tard. Après, on échange, on parle beaucoup. En général, plus on vieillit, plus on parle et moins on écoute. Et donc, au théâtre, on est obligé d'être assis et d'écouter une histoire. Et si cette histoire elle est belle et qu'elle fonctionne et qu'on rentre dedans, et ben en fait, souvent les portes émotionnelles qui sont ouvertes, ben c'est parce que ça nous ramène à l'enfance, ça nous ramène à ce moment où en fait on voyage et on imagine et on rêve. Et pourquoi plus que le cinéma? Bah parce que tout simplement on a des gens vivants, vrais devant nous qui sont en train de nous la raconter, cette histoire.
On vous a demandé pour ce club francophone de choisir une musique, une plage et une découverte culinaire. On commence par quoi, Christophe Mali? Vous êtes rédacteur en chef, en même temps, vous pouvez prendre
Vas-y,
ma place.
Lâche-toi.
Là.
Alors, qu'est-ce que t'as choisi, Alexis? Parce qu'en fait, on n'est pas au courant de ce que les autres ont choisi.
C'est la surprise.
Alors, la musique, c'est pour trio. Et Alexis a choisi un plat et une plage.
Alors, la musique. Moi, j'ai choisi une musique de Steel Pulse.
Oui, on écoute un extrait?
On écoute ça parce que pour moi, ça sent les vacances. C'est voilà, depuis toujours.
Allons-y.
Tu vois le jour de vacances ou pas Est-ce que tu vois, Emmanuel, le jour de vacances qu'on peut passer en écoutant ça à fond?
Je préfère pas savoir.
Eh ben écoute.
Vous voulez passer où les vacances avec cette musique-là? Sur quelle plage,
Nice,
par exemple?
C'est une musique originaire de Nice.
Non, un peu partout. Moi, je sais que j'adore un Steel Pulse. Pour moi, ça sent vraiment, voilà, ça sent les vacances et tout. Sur quelle plage? S'il y avait une plage, ça serait la plage d'Itacaré. Itacaré, c'est une petite plage au Brésil. C'est une plage très connue par les surfeurs. Je ne suis pas surfeur.
J'adore aller les regarder.
Mais j'adore regarder les surfeurs. Je me mets sur la plage et je les regarde. Voilà, Itacaré, c'est le Brésil. C'est le côté un peu sauvage, et c'est un endroit où j'ai passé pas mal de temps, et j'adore y retourner avec des amis, etc. Petit bungalow et tout, c'est vraiment c'est magnifique.
Vous devriez faire de la radio, Christophe Mali, car le choix de Daniel Bravo pour la musique, c'est une musique brésilienne.
Exactement.
Gilberto Gil.
A novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade o grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar.
Pourquoi Gilberto Gil, Daniel Bravo?
Parce que... En fait, ça ramène la plage où que tu sois, en fait. Ça ramène le soleil, ça m'ensoleille, moi, quand j'écoute ça le matin.
Et vos origines,
évidemment,
aussi, en Amérique latine.
Bah, déjà, moi, je suis chilien, c'est sûr. Mais c'était musicalement, moi, la musique brésilienne m'a toujours inspiré énormément.
Plus que la musique chilienne?
C'est beaucoup plus riche, la musique brésilienne. La percussion est d'une grande richesse. Et la place de la voix et de la musique, ça n'a rien à voir avec la conception européenne. Et c'est très intéressant. Et Gilberto Gil, la première fois que je l'ai vu, c'était, à l'époque, c'était le Hot Brass, maintenant c'est le Trapendo. Et je me suis pris une claque. Je suis sorti rempli de joie, de bonheur. Et un peu de sable autour de moi.
Quel artiste, Gilberto Gil.
Ouais, quel artiste. Ah ouais. Alexis Michalik, une plage refuge. Vous allez sur
une
plage
deux. J'en avais deux, mais oui, je vais vous les donner.
Vous allez me dire Nice. Je le sens venir à 3 km. Ça va finir par se voir et se savoir que je suis niçois, mais allez-y.
Non, j'en ai deux. J'ai la Playa Escondido.
Oui.
Alors, c'est dans le parc national Manuel Antonio du Costa Rica. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et alors, en fait, c'est une plage qui est protégée. On ne peut y accéder qu'en entrant dans ce parc national dans lequel il n'y a pas de voiture ni rien. Et dans lequel il y a des petits animaux qui se baladent. Et donc, on arrive sur cette plage. Et après, en fait, on a des espèces de petits ratons laveurs et petits singes qui viennent nous bouffer nos sandwichs. Et donc, je me suis littéralement battu avec un raton laveur, vraiment, mais au bâton, avec un raton laveur qui essayait de me choper mon sac à sandwich.
Ouais,
complètement. Ouais. Donc, c'est, mais c'est une plage paradisiaque.
Et vous l'avez tué, le raton laveur ?
Je l'ai tué.
Non, c'est
et
pas
après,
vrai.
Je l'ai mangé.
Mais non.
Non, mais je l'ai coursé et puis on s'est un peu fêté. Et ça, c'était ma plage paradisiaque. Hein,
d'accord.
Et un peu plus proche, il y a la plage de Lozzari en Corse, vers Milrousse, où je suis un petit peu plus souvent, on va dire à peu près tous les étés, avec ma bande de potes.
D'accord. Et qu'est-ce que vous mangez là-bas ? Quelle est votre découverte culinaire ?
Écoutez, pour moi, le plat d'excellence pour l'été, c'est le ceviche. Hein,
ah oui.
Pas photo. Désolé.
Évidemment.
Ceviche, moi aussi, c'est le plat de l'été, quoi.
Moi,
c'est le même.
J'ai choisi le même.
Exactement.
Voilà. Non, on est d'accord.
Alors, oui, ceviche.
Sans vous concerter.
Non,
c'est normal, c'est un plat frais, c'est du poisson.
Mais personne nous a sorti le ceviche et ne sait qu'on fait cette émission.
Mais parce que les gens restent, vont pas plus loin que Nice, mais nous, on va dans les pays étrangers, on va en Amérique du Sud, tout ça, quoi. C'est extraordinaire. Ouais.
C'est
simple à faire.
On peut en faire plein, en plus.
Alors, c'est quoi votre recette du ceviche, messieurs? J'ai envie de savoir.
Allons-y, Christophe Mali.
Alors, moi, poisson. Ben, moi, c'est très
simple. Lieu noir.
Lieu noir, citron
vert.
Mariné au citron vert. Oignon rouge. Oignon rouge, la découpe de l'oignon rouge est très très importante, et puis coriandre dessus.
Coriandre.
Et là, on est sur quelque chose de très simple, on met du sel, le poisson, il commence à cuire avec le citron, tu mets ça...
On sert ça avec un petit guacamole et une petite salade de tomates à côté.
Bon, merci beaucoup, Trio. Merci infiniment. Merci, Alexis Michalik.
Merci à vous.
C'était un très bon moment en votre compagnie. Des projets ? À court terme, un album ?
Oui, on est en train de se pencher en effet sur un nouvel album, mais avec Trio, on aime prendre son temps aussi, parce que voilà, quand on part sur un album, on part sur 2 ans de tournée non-stop, donc quand on s'arrête, du coup, on s'arrête vraiment, donc là, on est en période de pause, on est en période de création, et puis voilà, et ça nous permet d'aller voir, ça nous permet d'aller voir, de faire ce qu'on peut pas faire pendant l'année quand on est en tournée, c'est justement aller au théâtre, aller voir des concerts et sortir.
Bien, Alexis Michalik, une
transition
pièce
parfaite.
j'en ai
4 actuellement à l'affiche. Le porteur d'histoire toujours, le cercle des illusionnistes, Intramuros et Edmond.
Oui, grand carton pour Edmond. Vous l'adaptez au cinéma?
Absolument, ça sortira en janvier 2019.
Très bien.
Gros carton pour toutes les pièces.
Bien, on a compris. En tout cas, merci de nous l'avoir présenté ici.
De rien.
C'est la première fois.
Merci de m'avoir invité.
La librairie francophone.
De rien.
À très bientôt. Merci à vous. Dans un instant, nous parlerons d'espoir avec Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrigne, Atik Raimi, Prix Goncourt 2008 et Jean-Christophe Ruffin. Avant cela, j'ai une grosse surprise, Trio. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, vous étiez dans un studio de France Inter avec moi. Et vous aviez interprété un titre en direct. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pour l'album Ce que l'on s'aime.
Ah, c'était le titre Toi et moi.
Exactement. Souvenir, et on écoute, souvenir. On l'a retrouvé.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers. Embouteillage et pollution pour Paris, agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort. On l'enterre sur TF1. Deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant. Deux soldats de moins pour l'Occident. 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime ce matin.
Menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière. L'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger.
Ce matin,
rapport sur le climat. Il ne survivrait que les rats. Font des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là.
On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime ce matin. Ce matin, pendaison de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau, ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour, avec toi mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime ce matin. Ce matin.
C'était Trio, toi et moi, en version acoustique dans nos studios sur votre radio francophone. Joli souvenir, Daniel Bravo.
Carrément.
Vous étiez bon.
Enfin,
vous êtes toujours
bon. C'est gentil. Ça date.
Ça date, ouais, c'était il y a 10 ans.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Jean-François Bernardini du groupe Corse et Mouvrigny est sur notre plateau pour une rencontre, une discussion autour de l'espoir. Votre nouvel album, Jean-François, Luciole, est défini par votre maison de disques comme un hymne à l'amour et à l'espoir. Bonjour tout d'abord, merci Bonjour. D'être avec nous. C'est revendiqué Bonjour. L'espoir.
Ah, certainement, en plus, Luciole, c'est un des beaux compagnons de voyage, la Luciole qui porte cette bioluminescence, quoi. Elle nous invite à être porteurs de lumière, créateurs de lumière et... Je pense à ce mot de Pasolini qui disait « T'insegneranno a non splendere, ma tu splendi invece ». On va t'apprendre à ne pas briller, mais toi brilles quand même. Mm. Il y a l'espoir, il y a les passionnés de solutions, il y a les alternatives, il y a les vérités, il y a ce qui nous reconnecte avec notre nature profonde d'être humain qui est tissée de fraternité, de compassion, d'altruisme, de sens de l'autre. Donc voilà, cet album, effectivement, il est à l'image de la gravité du monde. Mais il est aussi porteur de tout ce qui nous met debout, quoi. Un artiste où il porte un peu de lumière, où il porte rien du tout. Et être dans la musique décorative, peut-être que c'est tout ce que l'on devrait éviter de faire aujourd'hui, car le monde, effectivement, il nous interroge, il nous interpelle. Ne nous laissons pas saturer de trop de vide, car le monde en crève quelquefois.
Toi qui m'as dit que chaque jour, tu pleures 5 fois. Toi qui te mets l'âme debout pour dire ta foi. Pour chaque enfant de nos amours, d'où qu'il en vienne ou qu'il vivra. Toi ma sœur musulmane, que l'on trahit, que l'on profane, vers l'ougène de gaudes souverain. Si longtemps que l'on vivra, si Dieu le veut, chantons 1000 fois.
Cette chanson, Ma sœur musulmane, c'est un acte citoyen pour remettre la vérité en place ?
Non, ce serait beaucoup dire, il faut se faire humble, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est une chanson qui prend le risque de l'indifférence et qui risque d'indisposer beaucoup de programmateurs radio, par exemple.
Pas seulement, parce que
je pense que c'est une chanson qui met le doigt sur des peurs réelles, sur des névroses réelles. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle nous dit le vécu de... 99% de musulmans dans le monde qui font 5 fois par jour leur prière et qui vous disent « Je prie pour tous les enfants du monde ». Quoi. Et cette chanson, il nous dit « Attention, ne nous trompons pas d'ennemis ». Effectivement, il y a un mot qui actuellement dans le monde crée une panique réelle. Hein, Dieu est grand, Allahu Akbar. Et en même temps, si nous nous en faisons une humiliation pour le musulman qui est près, qui est à côté de nous, on risque justement de briser les fraternités, les solidarités dont nous avons besoin, et finalement de faire triompher les forces du pire, quoi, la force des tueurs.
On va revenir sur cette phrase, hein, ce mot arabe. On a une petite surprise pour vous dans quelques instants. Il y a une photo qui symbolise l'espoir dans le livret du CD. Une infirmière israélienne allaitant un bébé palestinien pour le sauver. Ouais. Elle vient d'où cette photo ?
Ben, elle nous a été envoyée par des amis qu'on a en Israël et qui racontent cette histoire, cette anecdote merveilleuse, quoi. Cet enfant était près d'un mort et seule cette infirmière pouvait la sauver. Donc elle a donné son sein à cet enfant qui a et d'une certaine manière, quand on allait un enfant, on devient aussi sa mère. Quoi.
Ouais, ouais.
Et donc c'est une image merveilleuse qui prouve combien notre instinct biologique de maternité est fort et combien il nous sauve.
Le mot espoir, effectivement, il est là en filigrane tout au long de cet album. On a provoqué une rencontre, on voulait vous faire rencontrer un grand auteur. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
On vous a invité aussi, Jean-Christophe, parce que l'espoir est toujours présent dans vos romans. Quand on lit Le Collier Rouge, quand on lit Checkpoint, c'est l'espoir qui soutient vos personnages.
Mais c'est parce que je crois que je suis entré dans la vie, moi, avec un autre métier, qui est la médecine. Et quand on choisit la médecine, on choisit l'espoir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un métier qui vous fait rencontrer le malheur, qui vous fait rencontrer la mort, mais qui vous fait proposer autre chose, c'est-à-dire la vie. Et si vous n'êtes pas porteur d'espoir quand vous êtes médecin, ça veut dire que vous êtes à côté de votre métier. Et après, quand on passe, ce qui a été mon cas, quand on passe à l'écriture, nécessairement, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'on retrouve cette espèce de volonté, même si on présente la vie à travers ce qu'elle peut avoir de difficile, de dur, etc., toujours d'être avec des héros, derrière des héros qui, eux-mêmes, traverse tout ça avec force, avec énergie et avec espoir.
Et vous avez été engagé dans l'humanitaire, Médecins sans frontières, Action contre la faim, ça a été très dur, très douloureux, vous avez vécu des choses atroces. Comment on vit cela quand on est médecin et quand on est humanitaire? Est-ce qu'on est face à l'espoir ou face à finalement une sorte de fatalité?
Ben non, mais quand on choisit ces métiers, il faut s'attendre à, de toute façon, voir la souffrance, forcément. Alors qu'on la voit individuellement ou qu'on la voit de masse, si je puis dire, à travers des catastrophes, à travers des situations de crises graves comme, je sais pas, des flux de réfugiés, etc., ou des guerres. Moi, je trouve que c'est pas fondamentalement différent, si vous voulez. Il y a des choses qui peuvent être même plus émouvantes et plus dures à vivre quand on est face à une personne que face à une foule. Donc, c'est pas une quantité qui compte. Et l'espoir là-dedans, il est, j'allais dire, il est inhérent à la position qu'on a. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un type de malade qui vous fait mesurer ça, c'est les grands mélancoliques qui veulent se suicider. Parce que vous leur dites, la vie c'est mieux que la mort. Et eux, ils vous disent, mais non, c'est pas vrai. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous avez dit quelque chose qui vous paraît une évidence, mais que cette évidence, tout le monde ne la partage pas. Et que vous êtes donc porteur d'une forme d'option sur la vie, voilà, qui est celle de l'espoir.
Alors justement, on va partir tout de suite dans une librairie, découvrir un autre auteur qui va lire un texte d'Imouvreni, écrit en préambule de la chanson « Ma sœur musulmane », Jean-François Bernardini, vous voyez ce que je veux dire, et que l'on trouve donc dans ce CD, d'où l'intérêt d'ailleurs de continuer à acheter des disques. Il s'agit de l'auteur afghan Atik Rahimi, qui illustre ce mot « espoir ».
Nice, Bruxelles, Toulouse, Paris, Londres, Manchester, Berlin, Stockholm, Istanbul, Mossoul, Raqqa, Barcelone ont pleuré. Nous implorons encore et toujours avec elles. Depuis toutes ces tragédies, il y a un mot arabe à qui l'on fait porter toutes les peurs et tout le mal. Un mot que des esprits égarés ont dérobé pour en pervertir le sens noble. Mon amie algérienne me dit: pour moi, c'était toujours un mot d'amour, un mot pour quelque chose qui est plus grand que moi. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Je le dis à genoux 5 fois par jour pour prier pour tous les enfants du monde, me ressourcer, croire à la paix. Et elle ajoute: Daesh en a fait un cri de guerre et de massacre. C'est une trahison terrible. entraîne dans la boue et le sang ce qui pour moi reste un mot sacré de partage d'humanité. Allahu Akbar, en effet, c'était un mot que moi aussi tout petit, je récitais 5 fois par jour. Mais aujourd'hui, je vois que ce Dieu, à cause de toutes ces tragédies et par les barbaries des talibans, Al-Qaïda, Daesh, devenu tout petit ce Dieu. Et avec elle, justement, toutes ces pensées racistes avec qui définissent justement les musulmans comme les gens de Daesh, comme les gens de talibans, comme voilà, tous ces intégristes islamistes qui massacrent, qui sèment de la peur partout dans le monde.
Jean-Christophe Ruffin, une réaction?
C'est-à-dire qu'il faut renvoyer aussi à l'origine au parcours d'Atik Raimi et de tout ce qu'il peut représenter, c'est-à-dire l'Afghanistan, ce que ce pays a connu, qui produit à la fois le meilleur. C'est une diaspora extraordinaire. Les Afghans dans le monde entier sont extrêmement courageux et produisent des choses formidables. Et puis en même temps, un pays qui s'enfonce quand même dans une sorte d'impasse contre laquelle malheureusement on a l'impression de ne rien pouvoir. Donc il porte un flambeau très très difficile, hein, très très difficile à cause de ce pays.
Jean-François Bernardini.
Je suis profondément impliqué dans la non-violence et l'espoir, c'est celui que je vois tous les jours dans des lycées, dans des collèges de France où parler de ce paradigme-là, de la non-violence, fait briller les yeux des juniors, des adultes. Et ça, à la fois, c'est être dans la lucidité, mais en même temps se passionner pour les solutions, quelque chose de mieux est possible, et ça s'apprend.
Vous êtes un artiste engagé, Jean-François Bernardini, vous n'avez jamais eu peur d'ailleurs de dénoncer parfois les travers racistes de certains Corses, au risque parfois de vous faire attaquer. On dit parfois même que vous êtes plein de bons sentiments, une façon de discréditer votre discours, ça c'est souvent le cas chez les humanistes. Il y a une fondation que vous avez montée en 2002, la fondation Oumagne, qui agit pour des valeurs humanistes et solidaires et qui vise à ouvrir les esprits justement.
Ouais, c'est une petite ONG européenne portée par 4000 citoyens, elle n'a pas de fonds publics, on se passionne pour les solutions, et on se dit ne parle d'un problème que quand tu as un début de solution à proposer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a 5 programmes, un sur les solidarités, on est des Amazoniens, des gens qui luttent contre le travail esclave au Brésil. On promeut la non-violence en particulier depuis 2011, on s'est lancé dans ce programme-là et on est époustouflé de voir de quelle manière il répond à des soifs, à des envies, à des désirs. Dans le milieu scolaire, éducatif, dans le milieu des enseignants, et ça, ça donne effectivement de l'espoir.
Les www.afcoumani.org, Oumani, U-M-A-N-I. Merci beaucoup, Jean-François Bernardini. Merci infiniment. Le nouvel album d'Imouvrini, Luciole, est disponible chez les disquaires et sur les plateformes légales de téléchargement. Jean-Christophe Ruffin, votre dernier roman, Le Tour du Monde du Roi Zibeline, sort en livre audio et il est toujours disponible aux éditions Gallimard. Votre entretien d'ailleurs sur ce livre est à écouter en podcast sur le site de la librairie francophone. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup, Trio. Merci, Alexis Michalik. À très bientôt. À la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter en France, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Étienne Bertin avec Maxime Ingrand. La semaine prochaine, nous serons à Nice. Ça fera plaisir, Alexis Michalik, avec un programme de choc, des reportages et de nouvelles rencontres. Le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Régine Chassagne du groupe Arcade Fire, avec Daniela Ferrière de l'Académie française, Didier Van Kovelaar avec Costa Gavras et Bernard Lavillier avec Jean-Claude Carrière. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.